Radio Okapi. Journal présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, mardi triste, c'était hier pour les habitants de la ville de Kananga à la suite d'une pluie diluvienne qui a causé des dégâts matériels et humains importants. Madame le maire de la ville appelle à l'aide du gouvernement central. Le gouverneur de la province du Kasaï central condamne la cause principale, selon lui, les constructions anarchiques dans la ville. Les candidats à la présidentielle confirment leur manifestation de ce mercredi pour exiger la réorganisation des élections avec une nouvelle CENI. Cependant que le vice-premier ministre en charge de l'intérieur interdit la manifestation et évoque son illégalité. Les députés nationaux Sungi Pouloulou est l'invité de ce journal. L'élu de la Founa dans la ville de Kinshasa pense que le prochain parlement devrait recentrer son travail sur l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans la province du Kasaï central, la pluie diluvienne qui s'est abattue hier mardi à Kananga a occasionné plusieurs morts et des dégâts matériels importants sur la ville. Alors que la mairie parle d'une dizaine de décès, d'autres sources affirment que jusque-là, 22 corps ont été retrouvés à la suite de cette pluie qui a commencé dans la nuit et s'est arrêtée aux petites heures d'après-midi. Des habitations ont été également englouties par des éboulements et une église a été emportée. François Kadima nous fait le point.
C'était mardi triste pour les habitants de la ville de Kananga à la suite d'une pluie diluvienne qui a causé des dégâts matériels et humains importants. Dans la localité Bikoukou, une maison s'est écroulée et a englouti toute une famille, notamment une femme et ses 8 enfants. 7 morts dans le quartier Kamaï, 5 à Chisambi. D'autres cas ont été rapportés en Gaza et au quartier hôpital. Des habitations emportées, on en compte plusieurs dans presque tous les quartiers de la ville. Un temple de l'église cité Bethel a été touché par une érosion. L'usine de captage de la régie des eaux a également été noyée suite au débordement des eaux. Un mur de l'Athénée de Kamaï, en réhabilitation par la Banque mondiale, s'est écroulé. Des dégâts sont énormes, déplore Madame le maire de la ville. Rose Moussoubé appelle à l'aide du gouvernement central pour assister les familles sinistrées, surtout pour enterrer dignement les personnes décédées. Entre-temps, le gouverneur de province, John Kabeya, qui présente ses condoléances aux familles des disparus, souligne que ces dégâts sont causés par des constructions anarchiques sur la ville. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
Les candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023, dont Théodore Ngoï, Jean-Claude Baïndé, Nkema Lilo, Martin Fayoulou et Denis Mukwege, confirment leur manifestation de ce mercredi 27 décembre pour exiger la réorganisation des élections avec une nouvelle CENI. Ils l'ont dit lors d'un point de presse animé hier mardi à Kinshasa. En réaction à cette annonce, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur affirme que toutes les dispositions visibles et invisibles sont prises au niveau de la police et de l'armée pour maintenir l'ordre public. Peter Kazadi l'a dit lors du briefing du gouvernement sur la situation générale dans le pays après les élections du 20 décembre 2023. Selon lui, ces manifestations sont illégales. On l'écoute dans cet extrait choisi par Pele Kipelamondo.
Les manifestations telles que projetées pour demain, lorsque vous voyez les motifs, c'est contester les élections. Alors que nous nous sommes engagés dans un jeu qui a des règles, nous devons respecter les règles jusqu'au bout. De sorte que s'il y a quelqu'un qui veut sortir des règles, il viole la loi et il trouvera les forces de défense et de la sécurité de notre pays devant lui. Je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas cette marche-là. Tout simplement parce que ça ne cadre pas avec les contextes. Ça ne cadre pas avec les processus, ça viole les dispositions légales qui prévoient que la contestation des résultats se fait devant la Cour constitutionnelle ou les tribunaux compétents.
Et pendant ce temps, une dizaine de mouvements citoyens, dont Filimbi, des acteurs et organisations de la société civile, ainsi que 7 candidats présidents de la République, annoncent le lancement officiel de la mobilisation citoyenne et pacifique à travers tout le pays. Objectif, exiger l'annulation des élections du 20 décembre 2023. Il s'exprime à travers une déclaration commune rendue publique hier mardi à Kinshasa. C'était en présence notamment des représentants des 7 candidats présidents de la République. On écoute un extrait de la dite déclaration lue par Bopomi Bolapa Mino de Filimbi.
Nous, signataires de la présente, joignons nos forces et déclarons que le pouvoir appartient au peuple et que personne ne peut ne le lui voler. Alors que le Congolais était attendu devant l'urne pour se choisir des dirigeants à tout le niveau, nous avons plutôt assisté à un simulacre d'élection qui a privé des milliers de nos compatriotes de leur droit de vote. La Commission électorale nationale indépendante a rajouté au moins 5 jours de vote supplémentaire dans l'objectif de favoriser une fraude généralisée conformément à l'article 64 de la Constitution qui stipule que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Nous annonçons le lancement officiel des mobilisations citoyennes pacifiques avec le peuple à travers tous les pays.
Notez que cette déclaration est signée par 11 mouvements citoyens ainsi que les représentants des acteurs politiques, notamment Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Augustin Matata, Delice Sanga, Seth Kikuni, Franck Diongo, Floribert Anzuluni et Jean-Marc Kabound à Kabound. Dans le même chapitre, poursuite hier mardi au centre Bossolo, ici à Kinshasa, de la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Jusqu'hier, la CENI a publié les résultats partiels des 134 circonscriptions électorales issues des différentes provinces ainsi que la diaspora sur les 179 qui composent la RDC. Dans l'ensemble, depuis le début de cet exercice, sur un total de 6 122 456 des suffrages valablement exprimés, le candidat Félix Tshisekedi arrive en tête avec 78,98% grâce à Mzati Massanzi.
Parmi toutes ces circonscriptions dont les résultats partiels sont déjà connus, figurent quelques grandes villes du pays. C'est notamment Kinshasa, Kisangani, Kindu, Bunia, Beni, Butembo, Kalemie, Kananga, Mbandaka, Bandundu, pour ne citer que celles-là. Dans la majorité de ces entités, c'est le candidat Félix Tshisekedi qui trône. À Kinshasa, par exemple, seuls les résultats partiels de la circonscription de Lukunga ne sont pas encore publiés. De Funa à Changu, en passant par Moamba, le président sortant fait la course en tête. Il laisse ses adversaires avec un large écart. Dans la globalité, le candidat de l'Union sacrée glane jusqu'ici 4 835 253 voix, soit 78,9%. Il est suivi de Moïse Katumbi avec moins d'un million de voix, soit 14,2%. Le troisième est Martin Fayulu qui a 4,2% devant Rajab Oteba Bosurubabo quatrième et Constant Mutamba en cinquième position. Il reste encore 45 circonscriptions. La publication progressive des résultats va se poursuivre jusqu'au 31 décembre, jour prévu pour la proclamation du vainqueur de la présidentielle par la CENI.
Et pendant ce temps, le candidat Constant Mutamba, qui se trouve à l'étape de Lubao en province de Lomami, appelle sa base à garder son calme, à la vigilance et à ne pas céder à la provocation ni à l'instrumentalisation. Dans un communiqué de presse parvenu hier mardi à Radio Kapi, son porte-parole, Godrey Talaboulou, explique que son candidat aurait été victime d'une agression qui a fait 3 blessés dans son rang. Et tout à fait autre chose à présent, au Nord Kivu, la MONUSCO ferme définitivement sa base à Lubero. La cérémonie officielle s'est déroulée hier mardi en présence de l'administrateur militaire du territoire, des chefs de différents services para-étatiques ainsi que de quelques habitants. Tous ont exprimé un sentiment de regret au moment de voir un partenaire de 2 décennies s'en aller. Pour la mission onusienne, il s'agit d'une séparation physique car le système des Nations Unies prendra le relais pour pérenniser les nombreux acquis de sa présence dans cette partie du territoire. Marc Marofimbo, reportage.
C'est en 2002 que ce qui était accord MONUC s'était planté à Lubero Centre. Au départ, il ne s'agissait qu'en 2 camps de transit pour la démobilisation des ex-combattants. C'est en 2015 que le camp de transit va se transformer en sous-bureau de la mission onusienne. Ce mardi 26 février 2023, la MONUSCO a fermé définitivement ce sous-bureau. Dès l'avis des partenaires et de la population, plusieurs actions sociales, de développement, mais surtout de protection des civils ont été réalisées par la MONUSCO dans cette région considérée à l'époque comme le berceau des groupes armés. Pour le colonel Alec Iwewa, administrateur militaire du territoire de Lubero, L'heure est venue pour se prendre en charge avec le départ de la MONUSCO.
La MONUSCO a fait sa part et nous devons faire aussi la nôtre.
Les acquis de la MONUSCO doivent être pérennisés par les acteurs outillés afin de stabiliser la région, a dit Josiah Obat, chef de bureau de la MONUSCO Beni.
Et c'est notre souhait qu'ils vont continuer à utiliser les mêmes outils pour continuer à lutter pour que la paix puisse revenir ici définitivement.
Signalons qu'un tiers du matériel de ces sous-bureaux de la MONUSCO a été légué aux différentes structures étatiques et non étatiques du territoire de Lubero. Des tentes pour le PDDSS, une dizaine d'ordinateurs, du matériel de bureautique et mobilier du bureau pour la PNC, l'administration du territoire, la DGM ou encore des associations de la société civile, entre autres. Des retours de Lubero, Marc Marofimbo, Radio Capi.
C'est grâce à l'accompagnement de la MONUSCO que nous avons quitté la brousse, déposé les armes et nous stabiliser dans la communauté. C'est le témoignage d'un ex-combattant du territoire de Lubero, fait hier mardi lors de la cérémonie de la fermeture officielle de la base de cette mission onusienne dans ce territoire. Pour Gentil Kakule Kombi, grâce à cet accompagnement de la MONUSCO, il est actif dans la communauté et engagé aux actions de consolidation de la paix dans la région. Il s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Quand nous étions à Rutshuru, à Rwindi, c'est là que nous avons été réussis puisque on nous a rassemblés au niveau des différents siobi qui étaient éparpillés par-ci, par-là. Moi, j'ai été réussi aussi au siobi de Kirumba. C'est Kirumba qui m'a accompagné jusqu'à Rwindi et c'est de Rwindi que j'ai quitté pour aller à la MONUSCO à Kanyaruchinya. Mais à dire vrai, l'accompagnement était bon. Nous avons été bien sécurisés dans les bases de la MONUSCO. Nous avons été bien logés dans les bases de la MONUSCO avant de nous remettre au gouvernement congolais puisque le programme était bel et bien du gouvernement congolais. J'ai été démobilisé depuis 2015 et depuis lors, je suis revenu dans ma société. Je suis actuellement responsable d'une grande équipe de football, Lubero Sport. Donc je participe activement à la vie communautaire mais aussi au développement de chez moi. Puisque à part ça, mais aussi dans le cadre de la consolidation de la paix, j'encadre une association, CJPC, qui travaille aussi dans le cadre de la consolidation de la paix, qui est aussi partenaire de la MONUSCO. Il y a plusieurs activités, nous travaillons de commun accord avec la MONUSCO.
Et puis, dans le Haut-Katanga, les travaux d'assainissement de la ville de Lubumbashi ont repris. Les autorités appellent la population à plus de civisme et à ne plus jeter les immondices sur la voie publique. Les Louchois qui saluent cette initiative souhaitent cependant que cette action soit pérenne pour éviter qu'ils ne soient exposés à des maladies de mains sales. Des détails avec Jean Gandou.
Depuis quelques jours, les agents commis à l'assainissement de la ville sont de nouveau visibles à différents endroits. Outils de travail à la main, ils enlèvent les ordures, balaient les longs des artères. Pendant ce temps, les camions de la mairie font le tour de la ville pour évacuer les immondices se trouvant sur des sites préalablement identifiés. Même les tractopelles sont mises à contribution. Pour le maire de Lubumbashi, finit la récréation. Plus question de jeter les ordures sur la voie publique. Martin Kazembechoula.
Fini la récréation, nous devons prendre de fortes mesures pour mettre de l'ordre surtout dans ce secteur-là. Tout celui qui va s'hasarder en train de jeter des immondices n'importe où, nous allons les décourager par de fortes amendes et nous allons également aussi renforcer l'équipe de la police d'hygiène, aussi l'équipe de l'assainissement. On ne jette pas les immondices n'importe où. Nous devons avoir cette politique-là de gestion des déchets.
Cette action de la mairie de Lubumbashi est saluée par de nombreux Louchois qui en avaient marre de voir les immondices à chaque coin d'avenue dégageant les odeurs nauséabondes. Ces Louchois demandent à l'autorité urbaine de faire en sorte que la ville soit totalement assainie et espèrent que cette fois-ci sera la bonne car très souvent, les travaux commencent avec pompe et s'estompent au bout de quelques jours ou semaines, abandonnant la ville dans un état d'insalubrité criante. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Après avoir demandé le départ des 1500 soldats français présents au Niger, les nouvelles autorités de Niamey veulent à présent renégocier les accords militaires avec les autres pays qui disposent de forces stationnées sur le sol nigérien. Si Niamey veut renégocier, cela ne ferme pas formellement la porte à un maintien de cette présence des troupes étrangères. Au Maroc, après 3 mois de grève des enseignants, un accord a été signé hier mardi entre le gouvernement et 5 syndicats d'enseignants présents à la table des négociations. Alors qu'un nouveau statut dans l'école publique était à l'origine de cette crise profonde des enseignants marocains, les syndicats signataires de l'accord et la commission ministérielle en charge du dossier de la réforme globale de l'école publique marocaine appellent désormais à la reprise des cours.
L'invité.
Le député national Singi Pouloulou est l'invité de ce journal. L'élu de la FUNA dans la ville de Kinshasa pense que le prochain Parlement devrait recentrer son travail sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Le député national Nsingi Poululu déplore le laxisme observé les 5 dernières années au niveau du Parlement, qui n'a pas joué son rôle constitutionnel sous prétexte d'appartenir à la majorité au pouvoir. Il est interrogé par Michel Kifindangoy.
Nsingi Poululu, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire votre première expérience à l'Assemblée nationale. Quel bilan pouvez-vous faire de cette législature qui vient de se terminer?
Le bilan est positif du point de vue dotation des budgets. Le bilan aussi est positif du point de vue acidité aux travaux. Le bilan est aussi positif du point de vue production. Voilà.
Avant d'arriver à l'Assemblée nationale, vous aviez une vision du Parlement, des attentes, et c'est sur base de ça que vous aviez fait votre campagne en 2018. Et après cette première expérience, quelle a été votre déception sur la façon dont le Parlement fonctionnait?
Ma grande déception, c'est le laxisme observé qui nous a conduit à la complaisance. Et finalement, le peuple ne pouvait pas avoir les sourires comme je les voulais. Je voulais vous rappeler que moi, j'ai pas de vision. Moi, j'avais une mission. Les visions, c'est pour les hommes politiques. Moi, je suis pas un homme politique. Moi, je suis un homme d'État. J'ai une mission. Ma mission était de faire passer des lois pour donner du sourire au peuple congolais.
Alors, 5 ans plus tard, vous revenez encore devant le peuple congolais pour solliciter une nouvelle confiance. Qu'est-ce que vous comptez apporter de concret dans le fonctionnement du Parlement pour que vous atteigniez votre objectif?
Dès que nous rentrons, celui qui sera Premier ministre aura un budget programme, pas un budget comme d'habitude. Ce budget aura un objectif à atteindre. Il y a des personnes qui seront visées. Et puis nous allons évaluer la gestion des risques. Et lors de la reddition des comptes, on va voir si on a atteint l'objectif ou pas. Et c'est de là qu'on va décider s'il faut reconduire le Premier ministre ou pas. Et puis, je vais proposer l'institutionnalisation de suivi et évaluation du programme dans le secteur public. Il faut que les gouvernements arrivent à réaliser des résultats comme le font les privés, en termes de qualité et de quantité. En tout cas, ça, c'est ma mission de la nouvelle législative. Et je sais que tout le monde sait qu'Nsing va apporter ça.
Comment comptez-vous démontrer à la population congolaise de l'utilité du Parlement comme étant deux chambres des représentants du peuple dans la gouvernance publique?
La pratique ancienne consistait qu'un député peut venir au quartier, acheter les câbles de courant, asphalter les routes, donner à manger, enterrer des morts. C'est-à-dire, il laissait la population dans cette situation cruel pour que lors des élections qu'il se présente en faisait du bien. Maintenant, il faut renverser la tendance. L'État doit faire son travail. Si le Parlement oblige au gouvernement de faire son travail, l'État devient puissance publique. C'est fini. La population va dire merci aux députés. Et vous ne verrez plus, les députés ne seront plus remplacés.
Mais il y a aussi un sérieux problème d'injustice distributive. Nous sommes dans un contexte où le député a plus de 21 000 dollars, alors que le militaire a moins de 200 dollars. Et ça crée des frustrations dans la société. Comment comptez-vous répondre à ces problèmes si jamais vous êtes élu député?
Cette question était déjà réglée depuis 2020. C'est moi qui ai découvert que dans les budgets de l'État, 65% étaient affectés aux frais de fonctionnement. Et lorsqu'on a pour la première fois réduit à 46%, l'enseignant a quitté des 146 000 francs congolais, moins de 100 dollars. Maintenant, il est dans les 350 000 francs congolais. Donc, vous comprenez? Ce qui veut dire que il n'a qu'à revoir son frais de fonctionnement, les réduire à la baisse, à moins de 20%. Aucun patron. Mais pourquoi l'État s'est organisé pour 65% dans les frais de fonctionnement? En fait, c'était une mafia organisée.
Donc, vous avez dit que c'était une mafia organisée et du coup, vous proposez que désormais, le Parlement puisse commencer à voter un budget programme plutôt qu'un budget de dotation.
Oui, mais vous savez, quand j'en avais parlé, le président de la Cour constitutionnelle que j'avais approché, il avait simplement renversé parce qu'en budget 2019, l'institution Cours et Tribunaux avait 208 milliards de francs congolais pour 168 milliards de frais de fonctionnement. Les magistrats avaient 1 million 23 000 de francs congolais. jusqu'à 2 millions et quelques qui sont en train de toucher. Mais sans pourtant qu'on majore leur budget. C'est maintenant que l'année prochaine 2024, ils auront plus que ceux qui sont en train de gagner.
Singi Pouloulou, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Singi Pouloulou, député national élu de la FUNA dans la ville de Kinshasa, était notre invité. Il était avec Michel Kifindangoy. C'est la fin de ce journal qui a été supervisé par Pelé Kipelamondo et mis en onde par Pierre Diassinois. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.